Paris pour France Inter.
La bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique bourse, 35 centimes d'euros la minute, ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est bien sûr avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, un des plus grands soldats du XXe siècle, le général MacArthur.
Les vieux soldats ne meurent jamais, ils disparaissent simplement. Douglas MacArthur.
Ans d'histoire. Il fut une des figures les plus célèbres et les plus controversées de l'histoire des États-Unis. Major de sa promotion à West Point, général à 38 ans pendant la Grande Guerre, devenu en 1930 le plus jeune chef d'état-major de l'armée américaine, MacArthur ne laissait personne indifférent. Admiré pour son courage, détesté pour sa vanité et son égocentrisme, il avait aussi un sens inné de la mise en scène et du culte de la personnalité. Sur les plages de débarquement du Pacifique, au Japon et pendant la guerre de Corée, tout le monde connaissait sa célèbre pipe en bambou, les lunettes Ray-Ban et la casquette cassée de ce général dont la popularité et les ambitions politiques ont fait peur à deux des plus grands présidents des États-Unis. Il faut dire que jamais les journalistes n'ont cessé d'entretenir la légende de ce soldat exceptionnel qui, en 1942, après avoir été chassé des Philippines par les Japonais, était nommé par Roosevelt commandant en chef dans le Pacifique.
Pathé Gazette presents with pride a few of the highlights in the career of General Douglas MacArthur.
Pathé Gazette est heureux de vous présenter quelques hauts faits de la carrière du général Douglas MacArthur, dont les exploits ont sidéré le monde. 1918, sur les champs de bataille de France, le général Pershing remet une décoration au jeune général de brigade qui s'est illustré avec la division Rainbow. 12 ans plus tard, il est reconnu premier soldat d'Amérique. Il devient le plus jeune chef d'état-major de l'histoire. Mais les Philippines l'attendent. Cette fois, il est entendu en Amérique, chef suprême de toutes les forces alliées à l'est de Singapour. MacArthur, le conquérant.
François Kersaudy, bonjour.
Bonjour.
C'était les actualités de 1942, MacArthur au moment où il devenait commandant en chef dans le Pacifique Sud, et puis alors, qui allait être un des principaux artisans de la victoire sur le Japon. L'occasion donc, on l'a entendu pour les journalistes, de rappeler les débuts de la carrière de MacArthur, qui fut, vous le rappelez vous-même dans plusieurs articles et dans un petit livre sur MacArthur, un des officiers les plus brillants de sa génération, et cela dès le début de sa carrière militaire.
Oui, absolument. Déjà, c'était le meilleur à West Point. Il est sorti avec les meilleures notes qui aient jamais été attribuées par l'Académie en un siècle. West Point a commencé en 1802. Il y en a eu deux qui ont eu de meilleures notes que lui en un siècle, dont un certain général Lee, qui s'est illustré ensuite pendant la guerre civile. Mais c'était un sujet tout à fait brillant, ça ne fait aucun doute. C'était de famille. Son père lui-même avait été le plus jeune colonel de l'histoire des États-Unis à 19 ans sur le champ de bataille de la guerre civile. Il a voulu faire au moins aussi bien que son père.
Alors il le fera, hein, général en France, il s'est battu en France.
C'est extraordinaire parce qu'il était major, 14-18. On l'a promu colonel pour aller en France à la tête de cette division Rainbow, arc-en-ciel, et sur place il s'est illustré de telle façon qu'il est devenu général. Et c'était un général très particulier, on n'en voyait pas beaucoup comme ça, parce qu'il allait faire, avec les Français, faire des raids dans les tranchées ennemies avec un uniforme très peu conventionnel et une écharpe violette de 3 mètres de long qui lui a été tricotée par sa mère. Voilà l'appareil avec lequel il allait faire des raids dans les tranchées.
Alors il sera plus tard, on l'a entendu, chef d'état-major de la main américaine, là encore, le plus jeune que les États-Unis aient jamais connu. Et puis alors, il y a eu un épisode quand même qui est un peu un accroc dans sa carrière. Il réprime très très brutalement, en 1932, on est en pleine crise aux États-Unis, une manifestation d'anciens combattants, il y a même eu des morts.
Oui, c'est la fameuse marche des vétérans. Il s'est comporté là avec une brutalité tout à fait étonnante. Et le président Roosevelt a dit de lui très peu de temps après, Douglas, je crois que vous êtes notre meilleur général et que vous seriez notre pire politicien. C'est tout à fait juste.
Alors il est un peu mis sur la touche après. Lui qui était un peu parano, il s'est dit bon, à Washington, on m'en veut. Il était vraiment un peu parano, François Kersaudy. Et alors il quitte l'armée en 35. Enfin, il quitte les États-Unis, il quitte pas l'armée parce qu'il va se mettre au service du président philippin, Manuel Quezon, qui fait de lui un général philippin. On l'appelait le Napoléon de Manille, je crois.
Oui, même mieux que ça, il en fait un maréchal philippin, et tout le monde s'est un petit peu étonné et a dit à MacArthur qu'il aurait dû refuser. Et en fait, ce qu'il ne savait pas, c'est que c'est MacArthur lui-même qui l'avait demandé. Mm-hmm. Vous disiez qu'il était paranoïaque, mais il n'était pas seulement ça, il était aussi vaniteux, mégalomane, vindicatif, mythomane, il avait tout pour plaire, cet homme-là. Il avait par contre d'autres qualités. Il était d'un courage extraordinaire, il était très fidèle en amitié, il était courtois avec les dames, et il était très diplomate, il voulait.
On viendra sur son portrait. Alors cela dit, il est aux Philippines, il commande aussi une armée américaine qui est présente aux Philippines. Les Philippines sont sous tutelle américaine, encore François Kersaudy, et c'est là que il assiste au déferlement de l'armée japonaise après Pearl Harbor, et pour lui ça commence mal. Il y a deux défaites retentissantes, malgré une résistance héroïque à Corregidor et à Bataan. La guerre du Pacifique commence mal pour MacArthur.
C'est-à-dire que son problème, c'est qu'il n'avait pas pris les dispositions nécessaires. Il s'est fait prendre par surprise par les Japonais. 9 heures après Pearl Harbor, ses avions étaient encore concentrés sur les aéroports et n'ont pas dispersé. Donc ça, c'est de sa faute. Par contre, Bataan et Corregidor, ça, c'était pas des défaites, c'était plutôt des succès, parce qu'il a réussi une retraite, elle, qui était extraordinaire. Donc vous avez déjà une défaite due à une grosse erreur de sa part, et ensuite vous avez une retraite extraordinaire où il réussit à extraire tous ces soldats qui étaient cernés par les Japonais pour les emmener sur la presqu'île, la péninsule de Bataan et dans l'île fortifiée de Corregidor, où ils vont quand même tenir pendant 3 mois, ce qui est quand même extraordinaire.
Et lui va partir sur ordre de Roosevelt.
Va partir sur ordre de Roosevelt, absolument, en disant quand même, en prononçant ces mots célèbres, on va dire ça après, et il part sur ordre, et là il fait une fuite qui est tout à fait extraordinaire, en petit bateau à moteur, il traverse pratiquement les Philippines de long en large, et prendre un avion qui va l'emmener en Australie.
Douglas MacArthur, Supreme Commander in the South Pacific.
Douglas MacArthur, commandant suprême dans le Pacifique. Après Bataan, le président Roosevelt envoie MacArthur en Australie. En débarquant sur votre sol, j'ai promis au peuple philippin, je reviendrai. Ce soir, je répète ces mots. Je reviendrai. France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le général MacArthur.
C'était Anita O'Day en 1942, Fighting Doug MacArthur, une chanson écrite à la gloire du commandant en chef allié dans le Pacifique Sud, dont on a entendu la célèbre formule, François Kersaudy, I shall be back, je reviendrai aux Philippines. On a l'impression, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail de toutes les opérations de la guerre du Pacifique, mais on a l'impression que pour MacArthur c'était presque une espèce de combat singulier. entre lui et le Japon. Hein, il voulait prendre sa revanche sur son départ des Philippines.
C'est tout à fait ça. D'ailleurs, son entourage l'avait supplié de dire « Oui, Charles Return, nous reviendrons ». Il dit « Non, 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 allez, Charles Return ». C'était effectivement, ça devenait un règlement de compte personnel. C'est exactement ça, entre lui et les Japonais.
Et d'ailleurs, il y reviendra. Alors, il n'était pas le seul, ça le gênait un peu, le seul commandant en chef dans le Pacifique qui avait quelqu'un qui était même anti-russe, je crois, au-dessus de lui, c'était l'amiral Nimitz.
Non, il n'était pas au-dessus de lui. Ils avaient divisé, Roosevelt et son état-major avaient divisé le Pacifique en deux. Le Pacifique Sud avec l'Australie, la Nouvelle-Guinée, les Moluques et les Philippines pour MacArthur. Et le Pacifique Central avec toutes les îles jusqu'au Japon pour l'amiral Nimitz. Et donc, c'était une double stratégie avec deux stratèges qui se heurtaient parfois et que les Japonais ne comprenaient pas du tout parce qu'ils n'imaginaient pas une seconde qu'il y ait deux vedettes qui aient chacun leur stratégie et ils étaient très déconcertés, on le serait à moins.
En tout cas, il n'y aura qu'une seule vedette au moment de la capitulation, parce que bon, il va reprendre les Philippines en 44. Il insiste beaucoup, d'ailleurs, on lui dit, mais non, l'important, c'est le Japon. Et lui, il insiste pour reprendre presque île par île les Philippines, ce qui va faire un peu traîner les choses, jusqu'en 1945, lorsque Roosevelt le désigne, lui, pour la signature de la capitulation du Japon, quelques jours après Hiroshima. C'était le 2 septembre 1945, en rade de Tokyo, sur le cuirassé américain Missouri, une mise en scène extraordinaire, voulue par le général MacArthur.
Un pont de navire, MacArthur, un papier consigne, le groupe des vaincus, c'est tout le spectacle dont sa nudité et sa grandeur. Et là-dessus, le silence. Car le silence seul convient au geste qui marque le destin des nations.
I now invite the representatives of the Emperor of Japan.
J'invite maintenant les représentants de l'empereur du Japon, du gouvernement japonais et de l'état-major impérial à signer l'acte de reddition aux endroits indiqués. En tant que commandant suprême des forces alliées, je vais signer, au nom de tous les pays en guerre avec le Japon.
Pearl Harbor est effacé, et aussi Corregidor. Aujourd'hui, le monde entre dans la paix.
Et oui, 4 mois après la capitulation de l'Allemagne, c'est vraiment à Tokyo que s'est terminée la Deuxième Guerre mondiale dans le Pacifique avec, on le voit sur les films de l'époque, là on entend MacArthur qui demande aux Japonais de signer, mais sur les films c'est très impressionnant cette mise en scène, c'était vraiment un metteur en scène MacArthur, je crois que le général Eisenhower qui avait été sous ses ordres avait dit avec lui je n'ai appris qu'une chose, c'est l'art dramatique.
C'est absolument exact, et quant au général Marshall qui était allé le voir dans le Pacifique en 44, MacArthur lui avait dit mon état-major et moi, et là Marshall l'a interrompu et lui a dit, mon général, vous n'avez pas d'état-major, vous avez une cour. Et c'était tout à fait vrai.
Sur les plages de débarquement, bon, alors il y avait le débarquement, ensuite on voyait MacArthur qui arrivait, mais avant, il avait bien pris soin de mettre les photographes, les caméramens, hein, pour qu'on le voit débarquer théâtralement aux Philippines, par exemple.
Oui, mais pas toujours. MacArthur avait quand même un courage suicidaire. Il débarquait aussi avec les premières vagues, et quand il n'y avait pas de journalistes. Et ça terrifiait son entourage. Et lors d'un de ces débarquements, par la suite, après la guerre, on a demandé au général Yamashita, qui était le commandant japonais, ce qu'il pensait de ce qui s'était passé. Il a dit, oui, on m'avait bien dit que MacArthur allait débarquer, mais je trouvais tellement invraisemblable qu'il débarque avec la première vague que je n'ai même pas pensé à envoyer des gens pour le tuer. Vous voyez, un petit peu, ça paraissait invraisemblable.
Je propose d'écouter François Kersaudy, justement, le portrait de MacArthur par ceux qui l'ont connu, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, MacArthur n'est pas un homme qui laisse indifférent. Alors, ceux qui le connaissent, affirme le général George Kenney, qui a combattu avec lui dans le Pacifique, ceux qui le connaissent l'admirent ou le détestent. Ils ne sont jamais neutres, dit-il. Par exemple, le général Marshall ne l'aime pas beaucoup, mais il voit en lui, il le reconnaît, notre général le plus brillant. En Europe aussi,
général
on l'admire.
Marshall, c'était le commandant, le chef d'état-major des armées américaines. Oui.
Et donc, en Europe, on l'admire aussi, lui qui pourtant n'aimait pas beaucoup l'Europe. De Gaulle l'admire. Churchill parle à son propos du glorieux capitaine. Pour Montgomery, il est le meilleur soldat américain de la Seconde Guerre mondiale. Et pour Lord Allenbrooke, un diplomate anglais, il est le plus grand général et le meilleur stratège que la guerre ait produit. Après la reddition du Japon, un diplomate japonais est visiblement subjugué. C'est un homme de lumière, dit-il de MacArthur. Comme un soleil, le rayonnement de son âme magnanime embrasse la terre. C'est une chance insigne et rare qu'un homme de cette envergure ait été désigné pour décider du destin du Japon. Rien que ça. Alors, les soldats qui combattent sous ses ordres lui vouent aussi une véritable vénération. « J'ai suivi cet homme partout, aveuglément », dira un de ses hommes. Certains le comparent même à Alexandre le Grand. MacArthur en impose notamment par son courage physique, constamment en première ligne, rapporte un certain Willoughby, parfois très en avant de celle-ci. Son endurance physique remarquable et la témérité avec laquelle il s'exposait incitaient la population indigène et ses propres hommes à fournir un effort qui finit par jeter le trouble et l'effroi chez l'ennemi. Un courage qui frise quand même parfois l'inconscience. Un jour, en plein tir de mitrailleuse, un de ses lieutenants lui crie « Baissez-vous, nous sommes exposés !» Sans bouger, MacArthur répondit d'un ton tranchant « Je ne suis pas exposé, ces balles ne me sont pas destinées !» Et schlack. Pour un caractère hautain qui ne plaît pas à tout le monde, MacArthur suscite le respect, mais n'a jamais été capable de faire naître un sentiment de cordialité et de camaraderie avec son entourage, raconte l'amiral Barbet. Il est trop distant. MacArthur, en effet, a une haute idée de lui-même, un corregidor, l'officier Melnick, se plaint du général qui, dit-il, se drape dans sa dignité, dans sa réserve, n'essayant jamais d'être un des gars, un des boys. Alors, contrairement à d'autres, comme Eisenhower, qui se faisait appeler Ike, MacArthur n'a pas de petit nom, personne n'ose l'appeler Dog, à part la chanteuse, tout à l'heure, Anita O'Day. D'ailleurs, même sa femme l'appelait General. Pour nous donner une idée de son autorité, froide et souveraine, un autre officier dit de MacArthur, il est le seul homme au monde capable de pénétrer dans une pièce remplie d'hommes ivres et qui, en 5 minutes, sont totalement dessoulés.
Alors ça, c'est le portrait de l'officier François Kersaudy. Je voudrais qu'on évoque avec vous l'homme d'État, parce que en 1945, quand il signe quand il fait signer aux Japonais leur capitulation, il devient en même temps commandant en chef des forces d'occupation américaines au Japon, mais proconsul, littéralement, c'est lui qui est chargé du redressement du Japon et de sa réorganisation politique.
Oui, il a régné, on peut dire qu'il a régné sur le Japon, et on savait qu'il connaissait bien l'Asie, on savait moins qu'il avait des talents de diplomate. Il avait des talents de diplomate surprenants. C'était un homme qui pouvait charmer à peu près n'importe qui quand il le voulait. Il le voulait pas toujours. Mais en l'occurrence, il a tout de suite compris, parce qu'il l'avait déjà vu en 1905 quand il était venu là-bas avec son père, qu'il fallait avoir le soutien de l'empereur, parce que l'empereur, c'était le dieu sur place. Et il l'a eu très rapidement. Et grâce à quoi il a pu faire à peu près ce qu'il a voulu.
C'est lui, par exemple, qui a rédigé la constitution du Japon d'aujourd'hui.
Il a rédigé, elle s'appelle la constitution MacArthur, d'ailleurs, parce que celle qu'il avait demandé au Parlement de le faire, ce que le Parlement a fait était extrêmement mou et extrêmement mauvais, donc il a décidé qu'il allait le faire lui-même. C'est lui qui a fait la réforme agraire. Avant il y avait des serres sur les terres, il a fait en sorte que les propriétaires des terres vendent à l'État leurs terres pour le prix de 2 cartouches de cigarettes à l'hectare, et ensuite pour le même prix on a revendu aux paysans qui sont devenus propriétaires. Ça a ruiné d'un seul coup toute l'agitation communiste sur place, et l'occupation a été un succès aussi parce que les soldats américains se sont très bien tenus, et ils sont très bien tenus parce qu'ils avaient peur de MacArthur. MacArthur avait annoncé que tout soldat qui serait reconnu coupable de viol ou de crime serait exécuté immédiatement. C'est une époque où on n'avait pas encore dit que la peine de mort n'était pas dissuasive. Donc ils craignaient pour leur vie. Donc il y a eu ni viol ni crime, à la différence de ce qui s'est passé par exemple en Allemagne ou en Italie occupée, où il y en a eu beaucoup. Et ça, c'était grâce à MacArthur. MacArthur a fait des choses tout à fait remarquables au Japon. Et ils lui en ont été très reconnaissants, puisque le premier ministre Yoshida a dit lorsqu'il est parti que l'œuvre de MacArthur au Japon a été l'une des merveilles de l'histoire. Et Yoshida n'était pas un type impressionnable du tout. C'était l'Adenauer japonais, c'était un dur. Il a été très impressionné par MacArthur.
Et c'est au Japon qu'en 1950, MacArthur apprend donc l'invasion de la Corée du Sud par le régime communiste nord-coréen et qu'il est chargé par Truman de commander les forces alliées au début de la guerre de Corée.
En Corée, par le sud, l'est et l'ouest, les forces des Nations Unies attaquent, provoquant un revirement complet de la situation. Le 15 septembre, c'est le débarquement à Incheon. 6h30, sous les yeux de MacArthur, le synchronisme de tous les éléments qui composent l'attaque se révèle parfaitement réglé, et les premières troupes quittent l'armada comme prévu. Premier contact avec la côte ennemie. Immeubles en ruine, murs calcinés, la route de Séoul, capitale traditionnelle de la Corée, est ouverte. Partout sur les routes, des débris de toutes sortes, des carcasses de chars, disent la violence des combats. Le général MacArthur pouvait alors adresser à ses troupes son message laconique « Bien joué !»
Et oui, c'était bien joué. On dit même que le débarquement à Incheon, François Kersaudy, est une des plus, ses plus grandes réussites sur le plan militaire. Cela dit, très vite, les choses vont mal tourner. Bon, certes, ils libèrent Séoul. Ils vont au-delà du 38e parallèle, c'est-à-dire en Corée du Nord. Et puis, les Chinois entrent dans la danse. Et là, les Américains vont être obligés de reculer. Pour MacArthur, le début de la guerre de Corée n'a pas été une bonne chose.
Oui, alors, il a fait ce qu'on lui ordonnait de faire. Hein. Il dirigeait non seulement les troupes américaines, mais les troupes des Nations Unies. On lui a demandé de se porter vers Pyongyang. Il a pris Pyongyang, la capitale nord-coréenne. Il est remonté vers le nord. Et là-dessus, effectivement, les troupes chinoises sont intervenues, ce qui l'a obligé à reculer. Après, il y a eu une espèce d'aller-retour de part et d'autre du 38e parallèle, où on s'est aperçu assez rapidement quand même que les Chinois faiblissaient, parce que leur ligne d'approche était trop longue. Et à partir de ce moment-là, ça a été un petit peu une guerre psychologique. Il fallait savoir qui tiendrait le plus longtemps. Et au printemps de 1951, le problème est devenu politique.
Pourquoi ?
C'est-à-dire que du côté de l'administration, on voulait négocier.
Américaine, oui.
De l'administration américaine, on voulait négocier. Du côté de MacArthur, il n'était pas question de négocier avant qu'on soit en position de force. Et MacArthur voulait en outre qu'on bombarde les positions chinoises en Mandchourie pour affaiblir leurs arrières.
Oui, il a même été question, dit-on, de l'utilisation de l'arme nucléaire. C'est en tout cas ce que réclament ses partisans, les partisans de MacArthur aux États-Unis, comme ce sénateur de Pennsylvanie, James Van Zandt.
Votre désir de vaincre va-t-il jusqu'à utiliser la bombe atomique ? Absolument. J'ai toujours été partisan d'utiliser la bombe, pas seulement en Corée, mais aussi en Mandchourie. Pourrait-on donc, dans les faits, utiliser la bombe en Corée ? Oui, certaines cibles en Corée du Nord pourraient être détruites par la bombe atomique et nous pourrions les contaminer.
C'est effrayant ce que l'on vient d'entendre, non seulement ce sénateur de Pennsylvanie qui préconise l'utilisation de la bombe atomique, mais cette chanson, toujours à la gloire de MacArthur, et qui dit, je cite, « On verra bientôt la fin de cette sale guerre si le général MacArthur laisse tomber la bombe atomique ». Est-ce qu'il a vraiment été question pour lui d'utiliser l'arme nucléaire en Corée, François Kersaudy ?
Non, pour lui non, parce qu'il savait bien que ça n'était pas une décision que lui pouvait prendre. Ce qu'il voulait, c'est qu'on utilise tous les moyens possibles, et comme il avait l'habitude de l'insubordination et l'habitude de tenir tête à tout le monde, il a pensé que Truman céderait aussi et qu'on mènerait la guerre à outrance, même sans la bombe atomique, mais en bombardant au moins toute l'industrie chinoise. Mmh. Ce qui aurait évidemment déclenché un cataclysme. Et Truman, qui lui avait des responsabilités ailleurs et qui regardait du côté de Berlin et des côtés des soviétiques, ne pouvait pas s'engager là. Mais MacArthur a toujours considéré, depuis toujours, que le théâtre où il opérait était le seul important. Pendant la guerre du Pacifique, c'était pareil.
De la politique
le reste n'avait pas d'importance. C'était lui. Il avait une sorte de mission divine. D'ailleurs, celui qui se considérait comme l'un des deux grands défenseurs de la chrétienté, le second étant le pape.
Le second, pourquoi le second ?
Le second, parce que
le second étant le pape.
Oui, c'est MacArthur. La mégalomanie à très grande échelle. Et il est évident que les conférences de presse qu'il a données, publiquement ou pas, étaient un acte d'insubordination. Et de ce point de vue-là, Truman a eu raison de le destituer, de le rappeler. Il aurait pu le faire dans les formes, mais enfin bon.
Alors effectivement, il le destitue le 11 avril 1951, ou un petit peu avant, je ne sais pas, François Kersaudy. C'est quand même très courageux de la part de Truman, il faut le rappeler, parce que MacArthur, à l'époque, était très populaire.
Absolument.
On était, à l'époque, aux États-Unis en pleine anticommunisme. Hein, c'était le macartisme de McCarthy, et non pas de MacArthur, mais vraiment, et au fond, le général MacArthur était une espèce de croisée anticommuniste. Et quand il est revenu aux États-Unis, d'ailleurs, il a été accueilli triomphalement à Broadway, par exemple.
Il a été accueilli un héros à Broadway. Il a eu un accueil au Congrès qui était absolument triomphal. Son slogan, c'est « No substitute for victory », c'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer la victoire, donc il faut y aller jusqu'au bout. C'était assez populaire. Et malgré ça, Truman a réussi à le faire oublier et il a dû rentrer dans le rang, se soumettre en quelque sorte, de très mauvais gré, mais il l'a fait quand même, et il a donné quelques avertissements tout de même solennels quand il y a eu l'armistice hein, en 1953, en juillet 53, l'armistice en Corée. On a demandé son opinion à MacArthur, et MacArthur a dit c'est l'arrêt de mort de l'Indochine.
Ouais. Quand même, mais comment se fait-il qu'avec sa popularité, MacArthur n'ait pas brigué la présidence des États-Unis ou n'ait pas été élu? En 52, c'est un autre général, ce sera Eisenhower.
Il a été éclipsé par Eisenhower. Eisenhower était plus populaire parce qu'il était plus connu et parce que c'était une figure politique beaucoup plus présentable. Mmh. Et donc, il n'a jamais passé les primaires, MacArthur. Donc, il aurait fallu déjà qu'il soit élu aux primaires et ça ne s'est jamais fait.
En tout cas, MacArthur va ensuite vivre. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 23 ans? Parce qu'il quitte l'armée en 51 et il meurt en 74.
Il a été au conseil d'administration d'une entreprise qui s'appelait Remington. Et il a donné des conférences de presse. Il est allé se promener un petit peu partout. Il a été accueilli en triomphe aux Philippines. Il a été accueilli à nouveau en triomphe en 62 au Japon, où on se souvenait de lui, où c'était le grand héros. Quand il est mort, il a peu de semaines avant sa mort, le président Johnson est venu le voir et il l'a prévenu que la grande erreur, ce serait d'engager des troupes américaines sur le continent asiatique.
Et MacArthur mourra en 1974, 23 ans après son limogeage, et ce discours, dernier discours public de MacArthur, avec lequel nous allons nous quitter, François Kersaudy, c'était devant le Congrès des États-Unis le 11 avril 1951.
All soldiers never die. They just fade away.
Les vieux soldats ne meurent jamais, ils disparaissent simplement. Je mets aujourd'hui un terme à ma carrière militaire.
Just fade away.
Et je disparais.
Goodbye.
Je rappelle que mon invité François Kersaudy est l'auteur de plusieurs textes, un petit livre en anglais sur MacArthur, publié dans la collection 2 euros du Mémorial de Caen, et deux articles, l'un sur l'occupation américaine au Japon, publié dans la revue Historia du mois de novembre, et l'autre, MacArthur, l'enfant terrible de la stratégie américaine, publié dans la revue Histoire de guerre du mois de novembre également. Et puis François Kersaudy a également écrit un De Gaulle et Churchill, publié chez Perrin dans la collection Timpus. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Clotilde Thomas, Pascal Baldassari, documentation Virginie Bloch-Léné et Claire Tessier, revue texte et...